Prenez vos Bibles, ouvrez-les à Genèse chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 16 et jusqu'au verset 26. D'accord ? Genèse chapitre 4 à partir du verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de la terre, de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, et Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Métushael, et Métushael engendra Lémec. Et Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un message sur ces versets, d'accord ? Mais moi, je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant de faire un message sur ces versets. C'est peut-être des versets, quand on lit notre Bible, on a envie de sauter. Surtout, ne les sautez pas. Ils sont hyper intéressants. Du moins, c'est ce que je vais essayer de faire ce matin en vous communiquant ces vérités. Donc, j'ai intitulé mon message, comme vous l'avez vu... Le commencement de la civilisation. Alors bien sûr, avec un titre comme ça, il fallait même moi que je m'informe sur ce qu'est une civilisation. Donc j'ai fait des recherches sur Wikipédia, d'accord ? Civilisation, voici la définition d'une civilisation. Ensemble des phénomènes sociaux, religieux, intellectuels, artistiques, scientifiques et techniques d'une société. Clair. Synonyme, société. Traduction anglais, civilization. Bon, ça c'était comme ça, ça c'était pour du beurre, d'accord ? Alors je continue, je lis quelques petites sections par rapport à ce qu'est une civilisation. Dans l'acceptation actuelle, la civilisation c'est l'ensemble des traits qui caractérisent l'état d'une société donnée du point de vue technique, intellectuel, politique et moral. D'après l'archéologue Gordon Childie, dans Urban Civilization, paru en 1950, les premières civilisations les plus connues ayant laissé de grands ensembles archéologiques sont, selon lui, Sumer, l'Égypte antique, la civilisation de la vallée de l'Indou et la civilisation chinoise. Et selon le même archéologue, les fonctions de ces ensembles archéologiques monumentaux les différencient des établissements précédents du néolithique. La découverte, puis la maîtrise de l'agriculture, notez-le, au sein de la civilisation agraire, ont aussi entraîné une nouvelle organisation de l'espace et de l'activité humaine au sein de la civilisation urbaine. Pour être qualifiée de civilisation, ça c'est intéressant, celle-ci doit regrouper la plupart des caractéristiques suivantes. Donc pour être une civilisation, il faut avoir quoi ? Ceci, la présence d'une ville, la spécialisation du travail à temps plein, la concentration de surplus de production, structure de classe ou hiérarchie, et organisation étatique, donc un État. Il y a cinq, bon, c'est toujours selon lui, hein. Cinq critères secondaires, travaux publics monumentaux, commerce à longue distance, réalisation artistique monumentale, écriture, donc comptabilité, registre, etc., et connaissances scientifiques, donc arithmétique, géométrie, astronomie, etc. Donc voilà, on essaie de regrouper tous les éléments que nous pensons être fondamentaux à une société. L'historien Arnold Joseph Toynbee, dans A Study of History, paru entre 1934 et 1961, comptabilise 21 civilisations distinctes. Un autre gars, qui s'appelle Samuel Huntington, a donné une portée mondiale à l'idée d'un choc de civilisation en identifiant 8 civilisations à l'échelle desquelles se joueraient désormais les guerres et la paix dans le monde. Donc, voici les 8 civilisations, selon lui, qui existent aujourd'hui, qui créent aujourd'hui le choc des civilisations. 1. L'occidentale, donc la civilisation occidentale, États-Unis, Europe occidentale, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. 2. La civilisation latino-américaine, donc Amérique latine. 3. La civilisation orthodoxe, Europe centrale et orientale. 4. La civilisation africaine, Afrique subsaharienne. 5. La civilisation islamique, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale. 6. La civilisation hindouiste, Inde et Népal. 7. La civilisation bouddhiste, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Mongolie. Et 8. La civilisation de l'Extrême-Orient, Chine, Vietnam, Corée. Alors voici ce que les archéologues et les gens qui étudient ça nous disent aujourd'hui. Alors écoutez mes amis, ce qui est génial, c'est que ce matin, nous allons découvrir la toute première civilisation qui n'a jamais existé dans le monde. Civilisation de laquelle toute autre civilisation découle. Et cette toute première civilisation qui n'a jamais existé nous est décrite dans la Bible, dans Genèse chapitre 4. Et je pense que vous allez trouver cette étude très fascinante comme je l'ai trouvée fascinante. Donc avant d'attaquer notre texte, permettez-moi en quelques mots de réviser peut-être, vous n'étiez pas ici la dernière fois, donc je révise un petit peu là où on est. Dimanche dernier, nous avons examiné le triste récit du meurtre d'Abel par son frère Cain. Vous vous rappelez certainement, Adam et Ève ont eu 2 fils, l'un agriculteur et l'autre berger. Les deux ont un jour offert une offrande à Dieu, mais le problème c'est que tandis qu'Abel donna du meilleur de son troupeau, d'un cœur pleinement consacré, Cain lui a donné au Seigneur de manière mécanique et j'ai envie de dire minimaliste. Le texte nous dit que Dieu a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais défavorable sur l'offrande de Cain. Pris par la jalousie, la colère et le désir de se venger, Cain assassine son frère. Et Cain, malgré de multiples offres de grâce de la part de Dieu pour qu'il se repente, refuse de se repentir. Donc, Dieu finit par le juger. Les versets 11 à 12 nous donnent ce jugement. « Maintenant tu seras maudit. » Donc, Genèse 4, 11. « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Le verset 16 nous dit en plus que Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. C'est donc à partir de maintenant, donc, il est chassé d'Éden. Et c'est là que nous voyons le début du reste de l'histoire, si vous voulez. Et surtout, le début de ce que nous appelons la civilisation. Que se passe-t-il avec Cain? Où va-t-il? Que fait-il? Quel est le sort ultime de sa vie? Voici ce que nous explique le texte fascinant d'aujourd'hui. Alors ce texte, je divise en 3 grandes sections qui nous décrivent l'évolution de la civilisation en trois grandes phases, d'accord? Et donc j'espère que ça va devenir très très actuel, on va comprendre pourquoi notre monde il est comme il est aujourd'hui, d'accord? Donc voici l'objectif. Alors, première phase. La famille de Caïn est le commencement de la civilisation. Le tout commencement de la civilisation. Alors commençons avec le premier point. La femme de Caïn. Ah, vous l'attendiez celle-ci, je parie, d'accord? Ben oui, regardez le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, il habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Allez voir, est-ce que j'ai bien lu ma Bible? Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Alors la première question à laquelle j'essaie de répondre, que j'aimerais répondre, est peut-être la question, ou une des questions qui est la plus posée de toute la Bible. Et je vais vous dire pourquoi. Et surtout au mois de janvier. Je ne sais pas si vous saviez ça. Parce qu'au mois de janvier, il y a beaucoup de gens qui font des résolutions, n'est-ce pas? Et une des résolutions que beaucoup de gens font, c'est « Ah, je vais lire la Bible ». Donc ils commencent à lire la Bible, Genèse 1, c'est normal, on commence d'habitude un livre à la page 1 du livre, d'accord? Et ils arrivent au chapitre 4, et ils disent, mais attends, moi je comprends pas. Adam et Ève ont deux fils, Caïn et Abel, Caïn tue Abel, et maintenant Caïn épouse quelqu'un. Ben, c'est pas possible. Puis s'il y avait deux frères, il y en a un qui est mort, donc il va épouser qui? Un problème dans la Bible, ha ha ha! C'est ce qu'ils disent les gens. Alors, il faut savoir que les critiques de la Bible ont souvent utilisé cette question pour tenter de discréditer l'historicité de la Bible. Et malheureusement, et ça il faut dire que les chrétiens n'ont pas toujours su répondre à cette question de manière adéquate. Donc maintenant je suis obligé. Alors je vais essayer. D'accord? Donc, je révise. La Bible nous dit que jusqu'ici, Dieu a créé Adam de la poussière de la terre et Ève à partir de sa côte. Et ils ont deux enfants, Caïn et Abel. Abel est maintenant mort. Donc, si le verset 17 nous dit que Caïn a connu sa femme, qui est donc cette femme? Alors, je vous donne la réponse et ensuite je l'explique. Caïn a épousé sa sœur. Sa sœur. Vous dites quoi? Non mais John, franchement, sa sœur, c'est impossible. Premièrement, il n'avait pas de sœur. Et deuxièmement, l'inceste est interdit dans la Bible. Donc, l'idée qu'il aurait épousé sa sœur est tout simplement impossible. Alors, ça c'est la première des réactions. Mais j'aimerais maintenant répondre à ces deux soi-disant impossibilités qu'on vient d'évoquer. D'accord? Et là, je m'attire d'un petit bouquin qui s'appelle « Where did Caïn get his wife ?»« D'où est venue la femme de Caïn ?» par un gars qui s'appelle Ken Ham. Ken Ham, qui est très connu aux États-Unis, d'un ministère qui s'appelle « Answers in Genesis », les réponses dans la Genèse. Alors, pour le moment, les sœurs de Caïn, ou la sœur de Caïn, alors, je révise encore. Donc, Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Abel est mort. Puis, regardez, Genèse 5, 3 nous dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, on sait que Adam et Ève ont au moins eu trois fils. Caïn, Abel et Seth. C'est clair. Genèse 5, 4 et 5 ajoutent deux détails importants. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et regardez, il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans, puis il mourut. Alors la prochaine fois, on parlera de la longueur de la vie, ça c'est pas pour aujourd'hui. Mais ce qu'on note ici, c'est que Adam a vécu 930 ans. Je me dis, aïe, 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 moi je vais avoir 60 ans, je suis déjà crevé, quoi. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc, nous apprenons que Adam a vécu 930 ans, qu'il a eu d'autres enfants, des fils et des filles. Et en fait, Ken Ham cite l'historien Joseph, qui a dit ceci, on le cite, « Le nombre des enfants d'Adam, comme le dit la vieille tradition, est de 33 fils et 23 filles. » Ça, c'est ce que Joseph aurait dit. Grand total, 56. Alors, bien sûr, la Bible ne nous dit pas le nombre de fils et de filles qu'Adam et Ève ont eu après Seth. Mais écoutez, en 800 ans, il faut l'avouer, on peut avoir un paquet d'enfants. D'accord? et surtout du fait que Dieu leur avait donné l'ordre d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre dans le chapitre 1 et le verset 28. Donc, si, imaginons que Joseph avait raison, mais il a sorti ce numéro de n'importe où, d'accord ? 55 ou 56 enfants, en 800 ans, ça fait un enfant tous les 14 ans. J'ai fait le calcul. Personnellement, je trouve que c'est un peu peu. Est-ce qu'ils ont eu 100 enfants ? Un tous les 7 ans ? Ça paraît quand même peu aussi. Mais bon, peut-être vous allez dire, ouais, mais attends, John, la pauvre Ève, est-ce que son corps aurait vraiment pu avoir 100 enfants ? Écoutez, j'en sais rien du tout, sauf qu'on sait qu'elle avait un corps parfait. Parce qu'il n'y avait pas encore, c'était que le début de la chute de l'homme. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Bref, le fait est qu'ils ont probablement eu beaucoup d'enfants. Fils et filles. Alors, la deuxième sous-question, mettons alors, ok, peut-être qu'il a eu des sœurs, beaucoup de sœurs, n'était-il pas coupable d'inceste en épousant une de ses sœurs ? Bonne question. Non. Non, et je vous explique pourquoi. Premièrement, au tout début, si les frères n'avaient pas épousé leurs sœurs, alors on n'existerait pas aujourd'hui. C'était la seule option. C'était obligatoire. Il fallait bien trouver des femmes quelque part. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'était obligatoire. Mais certains diront que la loi prescrite dans la Bible ne permet pas de marier son frère ou sa sœur. Alors c'est vrai, regardez Lévitique 18, 9. Je vais vous lire. Lévitique 18, 9 dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de ta maison. Et tout ce chapitre parle de mariage illicite, de mariages qui ne sont pas bons, qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un des cas. Donc, la loi est claire sur ce sujet. Alors, deux réponses. En fait, tout mariage est quelque part un mariage consanguin. Parce que nous sommes tous issus du même ancêtre. Ou des mêmes ancêtres. On est tous issus d'Adam et Ève, quelque part. Mais, plus important encore, c'est de savoir que la loi qui interdit le mariage entre membres de la famille, proches, n'a pas été prescrite jusqu'au temps de Moïse, donc dans Lévitique 18 et 19 que je viens de lire. Donc jusqu'à Moïse, épouser un membre de sa famille proche n'était pas un mal. Rappelez-vous qu'Abraham, lui, a épousé sa demi-sœur dans Genèse 22. Il y a eu beaucoup de mariages rapprochés, si vous voulez, à l'époque. L'interdiction pour ce type de mariage n'est venue que 400 ans après Abraham, donc à l'âge de Moïse. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'il est interdit de marier sa sœur ou son frère. Alors je me suis posé la question, pourquoi ? Alors, voici la réponse. Car les enfants de telles unions ont une probabilité plus grande de déformité. De nouveau, je me suis posé la question, mais pourquoi ? Alors, voici l'explication. Chaque personne hérite des gènes de son père et de sa mère. Mais malheureusement, les gènes sont corrompus et contiennent des erreurs de codage à cause de la chute, du péché et de la malédiction de Dieu. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Peut-être que le mari a une oreille plus basse que l'autre. Vous avez déjà vu des gens comme ça ? Avec une petite déformation. Allez, on prend l'oreille plus basse que l'autre, d'accord ? Ou bien un nez mal centré, ça peut arriver aussi. Alors, plus les mariés sont proches génétiquement, plus ils ont de la chance de multiplier les mêmes erreurs de codage. Par exemple, si les deux parents ont le problème d'une oreille plus basse que l'autre, l'oreille de l'enfant aura une très grande probabilité d'être encore plus basse que l'oreille basse de papa et maman. Mais plus les deux parents sont éloignés génétiquement, plus ils ont la chance que leurs gènes se contrebalancent pour produire quelqu'un de normal, avec oreille équilibrée. Parce qu'il faut savoir que médicalement, les bons gènes ont, dans ce sens-là, une tendance à dominer les mauvais gènes. Donc si l'un conjoint Si l'un des conjoints éloignés a le gène d'une oreille basse et l'autre d'une oreille normale, la probabilité, c'est que l'enfant aura une oreille normale. Voilà. Voilà la réponse simplifiée. Ce qui est important de savoir, bien aimé, c'est que le problème que je viens d'évoquer, le problème des oreilles basses et hautes et tout ça, ne s'appliquait pas à Adam et Ève. Car lorsque Adam et Ève ont été créés, ils étaient parfaits. Leur gène n'avait aucun problème, aucune erreur, aucune malformation. Genèse 1, 31 est très très clair à ce sujet. Dieu les a créés et dans 1, 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Mais, une fois que le péché est entré dans le monde dans Genèse 3, Dieu a maudit toute la création pour que celle-ci commence à dégénérer, devenir malade et mourir. Et c'est ce que Romains 8, 22, alors maintenant on est bien des milliers d'années plus tard, mais regardez ce que Paul écrit dans Romains 8, 22, il dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La création souffre parce qu'elle est en chute. Et avec le temps, cette dégénération résulterait dans toutes sortes de problèmes génétiques pour l'homme. Écoutez, l'autre jour, je suis allé à la pharmacie, vous rentrez dans la pharmacie, j'ai demandé au pharmacien, il y a combien de médicaments sur le marché aujourd'hui? Il m'a dit, des milliers de médicaments, mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de médicaments? Parce qu'il y a tellement de problèmes. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de médicaments. On vit vraiment dans un monde en chute libre. Et on crée des médicaments, et ça c'est super, pour essayer de pallier à tous ces problèmes médicaux qui existent de nos jours. Et alors Cain, mes amis, faisait partie de cette première génération d'enfants nés dans le monde. Lui et ses frères et ses sœurs n'auraient reçu quasiment aucun gène imparfait de leurs parents, puisque les effets de leur péché sur leurs gènes auraient été minimes à ce stade. De ce fait, à cette époque-là, épouser un frère ou une sœur n'aurait eu aucun effet sur toute la première génération, la deuxième, troisième génération encore. Au moins, jusqu'à Moïse, 2500 ans plus tard. À quel moment ils ont décidé, là il y a un problème, il faut qu'on règle ce problème en éloignant les mariages. Donc, à ce stade-là, les effets néfastes du péché sur les gènes existaient, exigeaient une loi pour réguler le problème des déformités. Et donc c'est exactement ce que Dieu a prescrit que Moïse fasse dans Lévitique 18 et 20. Donc voici la réponse sur la femme de Caïn. Deuxième petit point. Le fils de Caïn. Le fils de Caïn. Regardez chapitre 4, verset 17. Caïn connut sa femme. Il conçut un enfant et enfanta Enoch. Alors, qui est Enoch? Qui est Enoch? Ben, en fait, on ne sait absolument rien sur lui. Ce n'est pas le même Enoch qui marchait avec Dieu pendant 300 ans dans Genèse 5, 21-24, parce que lui était le fils de Jéred. C'est un autre Enoch. La seule chose que nous avons sur lui, c'est son nom, et que son nom fut donné à la toute première ville du monde. Point 3, maintenant on va très vite, le point 3, la ville de Caïn. La ville de Caïn, regardez encore du verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Enoch, il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Alors on peut vraiment dire que la première ville du monde, vous savez, souvent en France on voit, donnez-moi un nom d'une ville en France qui termine avec ville. Quoi ? Albertville, voilà, exactement. Prenez Albertville. Ben, la première ville du monde s'appelait Enochville. Enochville, d'accord. Caïn a probablement vagabondé pendant plusieurs années, voire décennies, avant de poser ses valises et s'installer. D'accord? Il a été maudit en tant que vagabond. Donc il a vagabondé, verset 12, tu seras errant et vagabond sur la terre, mais un jour il a décidé, c'est terminé, j'en ai marre de ce genre de vie, donc je vais me poser et on va démarrer une ville. On va démarrer une ville. Alors ça, il faut bien noter que c'est un acte rebelle contre Dieu, ça. Dieu l'avait condamné à être errant et vagabond sur la terre. Ici, Caïn décide de faire comme lui veut faire, et non pas comme Dieu veut faire, et comme Dieu l'avait décidé. En fait, il fait ici exactement pareil ce qu'il avait fait avec l'offrande. Il fait à sa sauce, pas la sauce de Dieu. Alors certes, quel genre de ville est-ce que c'était? Alors il ne faut pas voir une ville ici comme New York ou Dubaï, d'accord? mais plutôt peut-être un établissement de plusieurs familles liées à la sienne, bien sûr, ils étaient tous frères et sœurs, quelque part. Un établissement de plusieurs familles. On est encore dans la deuxième, troisième génération de la progéniture, sous tente probablement, avec un début de bâtisse en dur, avec un centre de vie commercial qui apparaît. Alors question, pourquoi est-ce qu'il a donné le nom d'Enoch à cette ville? Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Enochville? Eh bien certainement, simplement pour perpétrer le nom de son fils. Et le psaume 49 nous dit que c'est quelque chose de vain à faire. Donc 49.6, psaume 49.6, « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. » Verset 10, « Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. » Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et eux dont le nom sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Il dit tout simplement, tu peux essayer de créer les hôtels pour qu'on se souvienne de toi, mais finalement, tu termineras comme un animal égorgé, mort et fini. Et avec le temps, on t'oubliera. C'est pas très joyeux, mais c'est la pure et simple réalité. D'accord. Donc, il voulait simplement essayer d'immortaliser sa descendance. De nouveau, on sait que c'est un homme qui s'est rebellé contre Dieu. Donc, maintenant, il fait humainement ce que les humains aiment faire pour essayer d'être importants, de pouvoir mettre un sens à leur vie. Donc, Enochville. 4. La civilisation de Cain. La civilisation de Cain. Verset 18. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Métushael, et Métushael engendra Lémech. Verset 19, Lémec prit deux femmes, le nom d'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Alors nous avons 4 générations, 5 si on ajoute Cain. Et la chose qui saute aux yeux ici, mes amis, c'est le verset 19, où nous apprenons que Lémec prend deux femmes. Lémec prend deux femmes, Ada et Tsila. Alors nous voyons ici le début de cette civilisation, avec cette civilisation déjà des signes de dégénérescence. Et combien rapide! Le premier signe de corruption majeur de cette toute première civilisation, c'est la polygamie. La polygamie. La civilisation de Cain était déjà corrompue à la source. Et c'est intéressant qu'un des premiers domaines où la corruption se voit, c'est dans le domaine de la sexualité. La volonté de Dieu à l'égard du mariage a pourtant été clairement définie par Dieu dans Genèse 2 et le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Un homme et une femme attachés pour la vie deviennent un aux yeux de Dieu. Ça, c'est la prescription de Dieu dans le chapitre 2 au verset 24. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et ensuite, il leur demande de multiplier, de créer des enfants. Voilà la norme de Dieu, la volonté de Dieu. Un homme pour une femme pour la vie. Imaginez, 5 générations plus tard, l'homme s'écarte déjà de la volonté prescrite de Dieu et cette déviance sexuelle allait dominer l'humanité jusqu'à nos jours et se multiplier de manière exponentielle. Et quels effets désastreux dans la civilisation aujourd'hui. Même Jésus a tenté de rappeler sa génération à l'ordre dans Matthieu 19.8, où il recite ce même verset. Jésus dit, il répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, ce n'était pas ainsi. » Et il dit au verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Depuis ce jour, mes amis, c'est un fléau que nous connaissons aujourd'hui. 5. La prospérité de Caïn. La prospérité de Caïn. Regardez le verset, de nouveau chapitre 4, verset 20, vraiment intéressant. Ada, enfantant Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près du troupeau. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Alors, ça surprend un peu ici. On sait que Caïn était maudit de Dieu, puni de Dieu. Pourtant, là, il y a une prospérité qui arrive. C'est pour ça qu'on appelle ça la prospérité de Caïn ici. On pourrait imaginer que puisque Caïn est rebelle à Dieu, que puisque Dieu le punit, le maudit, que Dieu va le casser à tout niveau. Mais ce n'est pas le cas. Dieu laisse souvent les rebelles prospérer. Lisez les psaumes. David même se pose la question, mais pourquoi est-ce que les rebelles et les injustes prospèrent? Prenez le psaume 73 si vous voulez. Eh bien ici, Dieu permet aux descendants de Caïn une grande prospérité. Comment est-ce qu'ils ont prospéré? Eh bien les deux enfants de Caïn et Ada ont fait de grandes avancées. Jabal, au niveau de l'élevage d'animaux et de l'agriculture pour pouvoir nourrir leurs animaux. Verset 20, d'accord? Ada enfanta Jabal et il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Pour avoir des troupeaux, il faut de l'herbe et des choses à manger. Donc, agriculture, animaux. Verset 21, il a son frère, Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alors, il faudrait peut-être qu'on demande à Flavius ce qu'est un chalumeau, parce que pour moi, un chalumeau, c'est un truc qui fait une flamme de feu. Mais apparemment, un chalumeau, c'est aussi un instrument, un instrument de musique. C'est juste, non? Tu sais ce que c'est un chalumeau? Non, il sait pas, d'accord, ok, d'accord. Il enseigne quoi? Ah, l'ancêtre de la clarinette. Ouais, Marie, ça c'est beau alors, ça c'est beau. Donc on peut dire que tu joues le chalumeau alors. Ah, tu sais, t'es bon au chalumeau, hein, franchement là, c'est super, ouais. Mais c'est intéressant ici, alors on voit que Jubal devint artiste et excella dans la musique. Et son nom, Jubal, correspond à une corne de bélier musical, un yobel. Et la corne était utilisée plus tard en Israël pour annoncer l'année de jubilé. Donc on voit tout le côté artistique ici qui se développe dans cette société. Puis au verset 22, regardez encore. De son côté, Tsila enfanta Tubal-Caïn qui forgea tous les instruments d'airain et de fer. Son nom veut dire apparemment marteau. Donc voici l'ancêtre, écoutez bien, de l'industrie et de la technologie. Que fabriquait-il? Probablement des outils pour ses demi-frères, des outils pour pouvoir cultiver la terre, garder le bétail. Peut-être il aidait d'une manière ou d'une autre à fabriquer des instruments de musique, des chalumeaux. Peut-être aussi fabriquait-il des armes. Son double nom, Tubal-Caïn, montre que les mecs voulaient honorer son père. Était-ce une bonne idée d'honorer son père qui est maudit par Dieu? Bref, voilà la réalité de la chose. Donc voici, mes amis, le commencement de la toute première civilisation. Nourriture, agriculture, les arts et la technologie. L'autre jour, vous savez, il y a un tout nouveau... Je fais pas de la pub, mais je vous en parle parce que ça m'est arrivé. L'autre jour, on est allé à Saint-Julien. Il y a un tout nouveau magasin qui s'appelle Biofrais. Vous l'avez peut-être vu. Grand frais, ouais, alors grand frais ou bio frais, bon, c'est un truc frais, grand ou bio, d'accord. Alors ce que j'ai remarqué, c'est en rentrant, il y a beaucoup de nourriture, d'accord. Alors je ne me rappelle pas exactement, mais je vais suggérer qu'il y avait peut-être de la musique, vous l'entendez. Donc quelqu'un me confirme, d'accord. Et ensuite, pour acheter un truc, c'est on bip, 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 technologie. Donc là, dans Biofret déjà, ben, nous avons une sorte de mini-civilisation. Nourriture, art, technologie. Et ça, c'est ce qui compose notre vie aujourd'hui. C'est ce qui compose notre vie aujourd'hui. Donc cet avancement culturel de la civilisation est en fait une bonne chose. On en profite aujourd'hui. Dieu a créé la terre pour que nous puissions créer des choses pour nous aider à bien vivre. Vous vous rappelez dans 1.28, Genèse 1.28, il dit ceci, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » L'assujettisser, c'est de prendre la terre, prendre tout ce qui existe dans la terre, de l'assujettir et de créer des trucs pour nous aider à bien vivre. Ça, c'est ce que Dieu a mis en nous, ce pouvoir de créer et d'inventer des choses incroyables. Le danger, c'est que quand l'homme fait ses avancées avec Dieu, les choses sont utilisées pour sa gloire et pour le bien des hommes. Mais quand ces avancées sont réalisées sans Dieu, alors le potentiel d'utiliser ces choses pour le mal sont grandes. Et le résultat est horrible, comme nous le voyons tous les jours. Je vous donne des exemples. Le nucléaire est quelque chose d'extraordinaire pour nous donner de l'électricité, pour nous permettre de lire la nuit, de nous permettre de faire tourner notre chauffage l'hiver. C'est génial, ça. Ou bien être soigné par la médecine nucléaire. Mais le nucléaire peut aussi être utilisé pour faire des bombes et tuer des gens innocents. Une puce électronique peut nous aider à trouver notre portable perdu et égaré, ou même notre chat ou notre chien, si on lui a mis une puce quelque part, mais peut aussi être utilisé pour diriger un missile dans la fenêtre de notre maison. Un téléphone portable peut nous aider à parler avec un membre de notre famille éloigné, ou nous aider à trouver un magasin comme Biofret très rapidement si on cherche. Ou il peut nous servir à nous gaver en pornographie ou encore devenir le mécanisme déclencheur d'une bombe terroriste. Les drogues nous aident à guérir, il y en a un paquet dans les pharmacies, mais les drogues peuvent nous tuer comme l'héroïne avec une overdose. La musique peut être quelque chose de beau et inspirant, la musique peut aussi devenir quelque chose de débauché, agressif et même inspirer certains à des crimes. Ceci mène au deuxième grand point. On va terminer à l'heure, d'accord? La chanson de Lamech est la dégradation de la civilisation. On a vu le commencement de la civilisation, maintenant la vraie dégradation de la civilisation. Regardez verset 23. Lamech dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lamech, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, Lamech 70 fois. Quel drôle de poème, vous ne trouvez pas? Nous voyons ici Lamech, fils de Caïn, réunir ses deux femmes, Ada et Tsila, pour leur faire part et pour se vanter de ses exploits de meurtre et de vengeance. Cette chanson glorifie la violence, comme tellement de chansons aujourd'hui. Regardez le verset 23. « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Qu'est-ce qu'on apprend ici? À un moment donné, Lamech fut blessé par un jeune homme. Lamech se venge en le tuant. Et il en est fier ici. Et les dernières deux lignes au verset 23 glorifient la vengeance exponentielle. Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 70 fois. Dieu avait dit que Caïn sera vengé 7 fois si quelqu'un touchait à sa vie dans chapitre 4 verset 15. Certains voient ici un chiffre parfait, 7, le chiffre de Dieu. Donc cela représente une justice parfaite pour un meurtre. Mais Lamech multiplie le chiffre à 77 fois. Si quelqu'un me touche moi, je me vengerai 77 fois. La vengeance personnelle fait son entrée dans la race humaine ici, une vengeance sans maîtrise. Ça, c'est quelque chose d'horrible. La vengeance devient depuis ce jour la norme dans la société. En fait, écoutez, les meilleurs films Hollywood, ce sont les films de vengeance personnelle. Et c'est vrai que ce sont des bons films. Parce que bien sûr, on nous dit que la justice ne marche pas, donc c'est justifié d'aller se venger personnellement. Les westerns sont des films sur la vengeance justifiée, bien entendu. Depuis ce jour, la vengeance personnelle continue. Donc, ici nous voyons être glorifiés par les mecs, l'orgueil, la vantardise, le meurtre et la vengeance. La lignée de Caïn. Heureusement qu'il y a le troisième et dernier point, regardez. La famille de Seth est l'idéal de la civilisation. Nous avons vu le commencement de la civilisation, la dégradation de la civilisation, mais ici nous avons l'idéal de la civilisation. Regardez, c'est très intéressant, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela au nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Comment devait être l'idéal de la civilisation humaine? Nous avons un clin d'œil ici. Une civilisation reconnaissante à Dieu. La première chose que nous voyons ici, c'est que Ève donne tout crédit à Dieu pour la naissance de son fils Seth. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela au nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Elle donne crédit à Dieu. Elle comprend que cet enfant lui est donné par pure grâce de Dieu. Elle réalise aussi que cet enfant serait important car c'est par lui que la promesse de 3:15 serait réalisée. Donc cette femme, qui s'est clairement repentie de son mal vis-à-vis de la tentation dans le jardin, a une attitude de foi et de reconnaissance envers Dieu. C'est super à voir ça, je trouve. Donc voilà le premier élément de la société idéale. Une société où le peuple est reconnaissant envers Dieu. Deuxième point, une civilisation qui invoque le nom de l'Éternel. Regardez le verset 26, « Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Waouh ! Quel rayon de lumière dans ce chapitre. Le texte parle de Seth, sa descendance, Enoch. C'est la progéniture de Seth au travers d'Enoch, qui a invoqué le nom de l'Éternel. Le contraste est évident. La lignée de Seth invoque le nom du Seigneur, tandis que la descendance de Lémec et Caïn s'occupe de leurs occupations purement matérielles. Un regarde au monde et que le monde, l'autre regarde à Dieu et le monde à travers Dieu. Ou le contraire, Dieu à travers le monde. Je ne sais pas exactement, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Une génération ignore le nom de l'Éternel, ils vivent leur vie sans l'Éternel, tandis que Seth et sa descendance vivent leur vie avec l'Éternel. Voilà le contraste. Voilà l'idéal de Dieu. Un peuple qui vit avec l'Éternel. La génération de Caïn, on peut presque dire, a commencé à adorer l'abondance, l'art, la technologie. Ils ont repoussé Dieu. Tandis que la génération de Seth a commencé à adorer l'Éternel et à utiliser la technologie et l'art et toutes ces choses, bien sûr. Donc l'idéal de Dieu, c'est quoi? C'est une civilisation qui invoque le nom du Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais écoutez, c'est tout le contraire. Moi je pensais à Romains 1 ce matin, la colère de Dieu, verset 18, se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Vous allez voir, les gens autour de nous, ils sont quand même pas bof. Ils savent très bien quelque part qu'il doit y avoir un Dieu qui a créé tout ça. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voir comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, tu regardes les étoiles, ou tu regardes une fleur, ou tu regardes une fourmi, tu dis « Waouh, c'est quand même incroyable !» Eux, ils te disent, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein, coup de peau. Ah ouais, franchement, là, il faut vraiment avoir de la foi, quoi. Alors, verset 20, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. » Et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est exactement ce qui s'est passé dans Genèse 4. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont commencé à adorer la création. Et ça, on le voit tout autour de nous aujourd'hui. C'est incroyable. Alors l'effet est époustouflant. Là, je vais vous montrer un truc vraiment génial. Regardez avec moi Genèse 4. C'est génial. Absolument génial. Verset 26. Seth eut aussi un fils, il s'appela le nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quel était l'effet du fait qu'Enoch a commencé à invoquer le nom de l'Éternel? Ben regardez le verset 25 du chapitre 5. Excusez-moi, 21. Enoch, un autre homme, plus tard, on verra ça dimanche prochain, d'accord? Dans deux semaines. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après sa naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu est suscitée sur la terre. Et là, quelques générations plus tard, il y a un homme, Enoch, qui a marché 300 ans avec Dieu, fidèlement. Quel encouragement. Attendez, c'est pas fini. Attendez, verset 28 du chapitre 5. Le mec, âgé de 582 ans, engendra un fils et on lui donna le nom de Noé. 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 En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Chapitre 6, verset 5, regardez. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, génération de Caïn, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et lui fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé, verset 8, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est génial. Vous voyez ce qu'on voit ici, mes amis, c'est que dans cette civilisation, il y a deux peuples. La génération de Caïn, qui repousse Dieu et qui vit pour le matériel. Et ensuite, il y a la génération de Seth, qui elle veut vivre en premier pour Dieu et honorer Dieu. Et Noé était un de ces hommes que Dieu a utilisé de manière incroyable, mais ça on le verra plus tard. Alors mes amis, voici le défi que nous avons aujourd'hui. Notre génération, aujourd'hui, suit la voie de Caïn. Et nous, on est dedans. Voilà le problème. Voilà le défi. Et nous, nous sommes appelés à suivre la voie d'Enoch, de marcher avec Dieu. C'est dur. C'est pour ça, mes amis, j'ai pas beaucoup de temps de développer, mais juste un ou deux trucs vraiment intéressants. Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne. Maintenant, vous allez mieux comprendre. Jésus dit ceci, Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendront-on? Il ne sert plus à rien que d'être jeté dehors, foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Ça implique que le monde est un monde de ténèbres. Mais nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On l'allume, pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es une chandelle, tu es une lumière brillante. Ta vie est en contraste total avec la voix de Caïn, avec cette société. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ta vie est vraiment différente? Ça, c'est la question. Nous, on ne tue pas. Comme Caïn. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni du Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Nous, on ne tue pas. Ça, c'est clair et net. Mais nous, on est tellement différents qu'on a de la peine à se mettre en colère contre quelqu'un. Tellement notre amour devrait être énorme et grand. donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le chrétien, il est complètement différent. Il va tout faire pour se réconcilier avec quelqu'un, même s'il a de l'amertume. C'est génial. Ah oui, vis-à-vis des péchés sexuels, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. On est tellement différents, on ne considère même pas l'adultère ou le péché sexuel, et on se bat avec notre cœur même. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si tu chutes sexuellement avec ton œil, arrache ton œil, c'est ce qu'il dit. Arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la gêne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Bon, pas littéralement, sinon aucun de nous aurait des mains ni des yeux. On serait tous des aveugles sans main. D'accord? Ok, on est d'accord. Mais vous savez ce qu'il est en train de dire? Sois radical. Un chrétien, il est différent. Il est radical avec ça. Il y a tellement d'exemples. Même nos lèvres, les grossièretés, je suis sûr que ça n'arrive jamais ici, d'accord? Écoutez ce qu'il dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques paroles bonnes qui servent de l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, Ephésiens 4, 29. 5, 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Écoutez, de nouveau là, on est complètement différents. Même avec notre langue. Et on peut parler d'amertume, de pardon. Non, pardonne. Soyez bons envers les autres, compatissant vous, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Ah ouais, j'ai oublié. Puis quand on a un ennemi, on fait quoi? 5:43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mes amis, on est fous. On est fous. On est fous. On est complètement différents. Mes amis, la clé, ça, c'est ce que c'est la clé. C'est Jésus-Christ qui a dit tout ça. Seule une personne qui sait absolument, sans aucun doute, qu'elle est de la voie de Seth, dont le Messie est venu nous apporter le pardon de nos péchés, seulement celui qui sait qu'il est en Christ, qu'il a une nouvelle nature, que son cœur a été régénéré, qu'il est né de nouveau, va pouvoir même commencer à penser comme ça. Ça, c'est le défi devant nous, mes amis, dans cette génération. Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, merci et merci et merci encore. On est tellement époustouflés par la parole de Dieu, Seigneur. Et combien il est bon de voir quelle est notre responsabilité en tant que civilisation de Dieu dans cette civilisation païenne dans laquelle nous vivons, Seigneur. Mais par ta grâce, tu nous as placés ici, maintenant. Tu as fait aucune erreur. Tu as un plan, Seigneur, et ce plan est en train de se réalisé exactement comme tu l'as planifié depuis tous les temps, Seigneur. Et tu as choisi que chacun de nous en soit ici, maintenant, pour faire une différence, pour proclamer le beau nom de Jésus-Christ et pour montrer à la génération de Caïn qu'ils peuvent, par un miracle de la part, faire partie de la génération de Seth et du Sauveur Jésus-Christ que tu as envoyé. Seigneur, pardonne-nous, parce que nous n'avons pas toujours briller comme la lumière. Nous n'avons pas toujours été à la hauteur de ce que nous devrions être. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et merci encore. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.